Vous écoutez RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 11 avril, un espoir pour les femmes qui n'ont pas ou plus d'utérus. Pour la première fois en France, une jeune femme a pu bénéficier d'une greffe, en l'occurrence celle de sa mère. Explication à suivre. Julian Assange, arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres, le célèbre lanceur d'alerte y était réfugié depuis 7 ans. Dans RTL Midi aussi, on manque de main-d'œuvre. Les employeurs ont 350 000 projets de recrutement supplémentaires cette année, mais ils ne trouvent pas les bras dans les métiers agricoles, l'hôtellerie ou encore chez les aides-soignants. Directeur général de Pôle emploi, Jean Basser, sera notre invité. Nous irons près de Marseille, où un jeune apprenti de 17 ans a été le souffre-douleur de ses collègues. 7 d'entre eux ont été mis en examen. Le Qatar veut rêver encore plus grand que le PSG. L'Émirat pourrait s'offrir un deuxième club européen. Pourquoi pas l'AS Rome ? La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Alors, inversé pour une fois, soleil au nord, grisaille au sud.
Grand soleil, même sur la moitié nord du pays pour cet après-midi, mais avec des températures un petit peu fraîches, alors que dans le sud, on a un ciel encore assez nuageux et encore de l'instabilité avec des averses entre le sud du Massif central et les Pyrénées et une forte instabilité sur l'extrême sud-est où là les averses seront localement fortes avec de la grêle et parfois même quelques coups de tonnerre, surtout sur l'île de Beauté. Les températures en baisse sous les averses, justement 19 degrés cet après-midi à Marseille, 16 à Lyon, 15 à Paris et Toulouse, 12 à Lille et 11 degrés à Cherbourg.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la lutte contre la radicalisation, faut-il intervenir dès l'enfance? Vous dites oui à 90%, 5% de non seulement. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle.
Des questions, par exemple, pourquoi sommes-nous si nuls en anglais? Des questions pour les auditeurs ont la parole tout à l'heure entre 13h et 14h. Nous attendons également vos appels si vous êtes grands-parents. Est-ce que vous aidez vos enfants et vos petits-enfants? De quelle manière au moment où les vacances scolaires arrivent? Si vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous avez des difficultés pour recruter? Et puis, cette question importante, faut-il privatiser Aéroport de Paris?
À tout à l'heure.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer donc cette première médicale en France, une femme de 34 ans a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, en l'occurrence un don de sa mère. L'opération a été réalisée à l'hôpital Foch de Suresnes. La donneuse et sa fille vont bien. Anne Lehenaf, c'est l'aboutissement de plus de 10 ans de recherche.
Oui, notamment par une équipe suédoise qui a déjà fait 9 greffes pour des jeunes femmes souffrant d'une absence congénitale d'utérus dès la naissance. C'est le cas aussi pour l'opération qui a eu lieu à Suresnes il y a 10 jours. L'hôpital Foch a reçu une autorisation de mener un essai clinique pour 10 greffes d'utérus à partir de donneuses vivantes, sachant qu'une autre équipe à Limoges travaille, elle, sur des donneuses décédées. Dans le monde, une quinzaine de bébés sont déjà nés grâce à cette technique, qui pose pas mal de questions éthiques pour l'Académie de médecine. D'abord, c'est une grosse opération, 14 heures au total entre le prélèvement et la greffe. Mais ce n'est pas une greffe qui permet de sauver la vie comme une greffe de cœur, c'est une greffe donc une prise de risque pour potentiellement donner la vie. La jeune femme greffée à Foch pourrait recevoir des embryons congelés dans 10 mois, selon son chirurgien. Autre question, les greffes entre vivants en France ne sont autorisées que dans une même famille. Du coup, est-ce que la mère ne risque pas de se sentir responsable de la malformation de sa fille et donc plus ou moins obligée d'accepter de donner son utérus? Et surtout, comment l'enfant, au-delà de l'impact des traitements pour éviter le rejet de la greffe, va grandir, se sachant né du ventre de sa mère et en quelque sorte de l'utérus de sa grand-mère? On est encore au début de l'aventure.
Voilà, bah autant de questions qu'on va poser au professeur Israël Nizan. Bonjour. Est-ce que le professeur Nizan est en ligne avec nous normalement? Oui. On me dit que oui, mais on n'arrive pas. C'est bon. Ah, bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Bon, oui. D'abord, c'est quand même un espoir formidable pour toutes ces femmes qui sont nées sans utérus ou à qui on a dû prélever l'utérus, retirer l'utérus.
Oui, c'est un espoir pour tout ce qu'on appelle les stérilités utérines définitives, c'est-à-dire des femmes qui sont nées sans utérus par malformation congénitale ou des femmes qui ont perdu leur utérus soit du fait d'un cancer, soit du fait d'une complication de l'accouchement. Mmh. Et donc, pour toutes ces femmes, le fait qu'il y ait une possibilité ou plusieurs possibilités en France pour cette pratique-là est très importante.
Est-ce que c'est une bonne alternative à la GPA, la grossesse pour autrui?
Ça ne concerne pas tout à fait les mêmes cas, parce que dans la GPA, des femmes qui, par exemple, ont leur utérus, mais ne peuvent pas porter de grossesse parce qu'elles ont une pathologie cardiaque ou qu'une grossesse risquerait de les faire mourir, ces femmes-là ne sont pas candidates à la greffe d'utérus. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes indications, mais c'est en revanche beaucoup plus lourd que la GPA en termes de disponibilité du corps de l'autre. Donc, la France n'a pas hésité à autoriser les greffes d'utérus alors qu'elle interdit la GPA en matière d'indisponibilité du corps humain et de l'autre personne en particulier. On est dans des protocoles qui sont beaucoup plus lourds côté greffe d'utérus.
Mmh. Anne Le Hénaff parlait tout à l'heure de problèmes éthiques que ça peut poser puisque c'est une greffe sur un organe qui n'est pas un organe vital.
C'est vrai, ça pose des problèmes éthiques, les mêmes problèmes d'ailleurs que la GPA, le risque pour la donneuse d'avoir une complication chirurgicale, le risque pour la receveuse aussi d'avoir des complications chirurgicales. Donc les risques vitaux sont toujours et posent des problèmes éthiques lorsqu'il ne s'agit pas de sauver la vie, mais de donner le jour à un nouvel enfant.
Y a un risque de rejet très important ou pas plus que dans n'importe quelle autre greffe ?
Pas plus que... Il semblerait, mais alors l'expérience mondiale n'est pas très importante, que le risque soit plutôt moins important et qu'à l'avenir, on saura de mieux en mieux maîtriser le risque de rejet de ces greffes. L'expérience suédoise, qui est la seule, et d'ailleurs, merci aux Suédois d'avoir accompagné la France dans ce début, l'expérience suédoise a montré qu'il y a eu 3 débuts de rejet de greffe sur les 9 tentatives qu'ils ont faites, donc et qu'ils ont pu maîtriser ces rejets de greffe. Il y en a un qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Ça vous donne une proportion de ce phénomène du rejet de greffe.
C'est quand même extrêmement prometteur, clairement.
Oui, parce que l'utérus, c'est une greffe éphémère, comme vous l'avez dit. C'est pas une greffe définitive, donc les traitements anti-rejet ne vont pas être définitivement administrés. Ils ne sont administrés que le temps qu'on obtienne une grossesse. Et on sait maintenant, grâce aux greffes de rein, que les grossesses subséquentes aux greffes de rein n'ont pas entraîné de handicap pour les enfants nés de ces femmes. Donc on sait gérer le rejet anti-greffe sans que ça gêne une grossesse.
Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications, merci pour votre éclairage, professeur Nizan. À très bientôt, bonne journée. Le docteur Bonnemaison, radié à vie de l'Ordre des médecins, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé irrecevable sa requête. Cet ancien médecin urgentiste de l'hôpital de Bayonne avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir donné la mort à une patiente de 86 ans. Cette affaire avait d'ailleurs relancé le débat sur l'euthanasie. Julian Assange, le lanceur d'alerte le plus connu de la planète, a donc été arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres ce matin. Le fondateur de Wikileaks, cette organisation non gouvernementale qui s'était rendue célèbre en publiant des documents confidentiels, vivait depuis 7 ans réfugié à l'ambassade et il a été lâché par son pays hôte, l'Équateur, Brice Dugénie.
Absolument, l'Équateur a mis fin à l'asile politique. Longs cheveux, longue barbe blanche, le visage vieilli à la sortie de l'ambassade, Julian Assange a refusé ce matin de marcher, de sortir de lui-même du bâtiment. Les policiers anglais ont dû le porter. Au terme de son parcours fait de poursuites judiciaires, de jeux de cache-cache, il avait fini par trouver refuge en 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il a même été naturalisé équatorien depuis. Mais avec le changement de président en Équateur en 2017, la politique anti-américaine du pays a changé et le statut d'Assange également. Le nouveau président équatorien Moreno a même qualifié Assange de « caillou dans la chaussure du pays ». Il a donc mis fin à la protection. Et à l'invitation de l'ambassadeur, les enquêteurs britanniques sont entrés dans le bâtiment. Julian Assange a fondé Wikileaks en 2006, un site qui a révélé des documents confidentiels, des scandales de corruption et d'espionnage impliquant notamment les États-Unis. À 47 ans, il est en ce moment en garde à vue dans un commissariat londonien. Le site Wikileaks dénonce de son côté une fin illégale d'asile politique. Et en Suède, la femme qui l'accusait de viol a demandé la réouverture de l'enquête qui avait été classée.
Brice Dugénie. Carole Ghosn a été interrogée au tribunal de Tokyo ce matin sur les nouveaux soupçons de malversation reprochés à son mari, l'ancien PDG de Renault. Elle avait promis lundi sur RTL de retourner au Japon si la justice le lui demandait. Dans un instant, la sortie du grand débat. On attend des annonces du président la semaine prochaine. Et puis, on va vous trouver du travail avec Pôle emploi.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Édouard Philippe a choisi symboliquement Strasbourg, 4 mois jour pour jour après l'attentat qui a endeuillé le marché de Noël, pour présenter un plan de prévention de la radicalisation. Le terroriste avait fait l'objet d'un signalement dès l'âge de 8 ans. Il faut intervenir plus tôt et plus vite et élargir la prévention aux enfants de moins de 12 ans. Le Premier ministre vient tout juste de s'exprimer.
D'abord, nous devons intervenir plus tôt et plus vite. Le constat que nous faisons, et qui est un constat partagé par l'ensemble des acteurs, c'est celui, sinon d'un rajeunissement généralisé des délinquants, du moins de manifestations à un jeune âge qui nécessite de développer une capacité d'intervention, de détection et d'intervention plus précoce. Nous devons aller trouver ces jeunes ou ces décrocheurs ou ces personnes qui sont en train de passer vers la délinquance ou vers la radicalisation là où elles sont, c'est-à-dire souvent dans la rue, souvent sur Internet, ne pas attendre de pouvoir les détecter dans les institutions qui fonctionnent et qui existent.
Édouard Philippe à l'instant, au micro RTL de Yannick Holland. Et on attend toujours la sortie du grand débat avec les annonces présidentielles. Une chose est sûre, ce sera la semaine prochaine et le chef de l'État veut taper fort. C'est ce qu'on appelle en marketing, Olivier Bost, l'effet waouh.
Oui, et pour préparer son effet waouh, Emmanuel Macron s'est ménagé du temps. Il n'y a absolument rien à son agenda officiel aujourd'hui. Un seul rendez-vous demain et il a encore tout le week-end pour travailler sur ses décisions puissantes, comme l'a promis son Premier ministre Édouard Philippe, tout le week-end, car d'après les informations de RTL auprès de proches du chef de l'État, il faudra bien attendre la semaine prochaine pour connaître les décisions d'Emmanuel Macron. Il n'a pas encore choisi définitivement le jour où il le ferait. Pour une ministre, ça n'a de toute façon pas d'importance. Ce qui est essentiel, c'est qu'il prouve qu'il a entendu les messages du grand débat. Sur la forme, plusieurs proches lui conseillent d'être le plus solennel possible et d'être aussi le plus simple possible. Un ministre nous l'a assuré, sur les mesures fiscales par exemple, le chef de l'État ne va pas rentrer dans le détail. D'autres tempèrent d'ailleurs les attentes sur les baisses d'impôts. Il n'y aura surtout pas que ça, précise un conseiller. Hier encore, chacun a pu donner son avis en Conseil des ministres et tous au gouvernement annoncent quelques mesures à effet immédiat, d'autres de long terme qui engendreront des discussions, du débat. La semaine prochaine, on n'en aura donc pas tout à fait fini encore avec le grand débat.
Le Parlement vient d'adopter définitivement la loi Pacte qui prévoit entre autres la privatisation d'Aéroports de Paris. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à la tribune, s'en est pris aux députés qui ont enclenché un référendum d'initiative partagée. Ils font le jeu des populismes, a-t-il lancé. Manque de bras, bonne nouvelle, les employeurs ont de plus en plus l'intention de recruter cette année. Pôle emploi livre son enquête ce matin sur les besoins de main-d'œuvre et ce chiffre progresse de près de 15%, ce qui représente près de 350 000 projets de recrutement supplémentaires. Alors, encore faut-il trouver les bons profils. Pour entrer dans le détail de ces offres, avec nous Jean Bassère, directeur général de Pôle emploi, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les métiers les plus recherchés en ce moment ?
Alors on retrouve des métiers qu'on avait régulièrement dans nos enquêtes en matière de service d'aide à la personne, hôtellerie, restauration. Mais ce qui est intéressant dans l'enquête de cette année, c'est qu'on voit émerger des forts besoins de recrutement dans des secteurs qui étaient moins attendus ces dernières années, la construction,
oui,
le service aux entreprises, notamment le transport et la logistique, et puis l'industrie. Ce qui est une bonne nouvelle, puisque vous savez que l'industrie recrute très majoritairement en CDI.
Et comment l'expliquez-vous ?
Ça, c'est l'effet de reprise de l'activité économique. Le point d'attention pour Pôle emploi, et c'est une incitation d'ailleurs à la mobilisation, c'est qu'on note aussi que les chefs d'entreprise nous déclarent qu'ils anticipent plus de difficultés de recrutement. Aujourd'hui, il y a une entreprise sur deux qui envisage d'embaucher,
oui,
qui craint d'être confrontée à des difficultés de recrutement.
Pour une entreprise sur deux, ça veut dire que c'est absolument énorme. Pour quelle raison ? Parce que il y a une inadéquation entre l'offre et la demande ? Problème de formation ou problème de pénibilité ?
Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. On a d'ailleurs interrogé précisément les entreprises pour préciser cette question. Il y a un gros motif qui est l'inadéquation du profil des candidats, qui renvoie, vous venez de l'évoquer, à des questions de formation, de compétences techniques, mais aussi de savoir-être. Mais les chefs d'entreprise reconnaissent eux-mêmes qu'il y a des motifs qui tiennent aux conditions de travail, il y a la mobilité, à l'éloignement géographique. Donc c'est tout un ensemble de causes qu'il nous faut traiter, qu'on travaille actuellement fortement, vous savez, avec le plan d'investissement sur les compétences, puisque le gouvernement consacrera durant le quinquennat 15 milliards d'euros à la formation des demandeurs d'emploi et des personnes éloignées du travail. Et nous mobilisons très fortement dans les agences de Pôle emploi autour des métiers dits en tension, ceux qui ont du mal à recruter chaque semaine. Dans toutes les agences de Pôle emploi, vous avez une opération qui vise à favoriser du recrutement direct ou de la présentation de métiers ou de la présentation de l'action de formation. Donc c'est pour nous un enjeu naturellement considérable.
Mmh. Donc pour vous, effectivement, l'enjeu, c'est la formation. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de recruter dans les PME que dans les grosses entreprises ?
Ben, c'est une raison, à mon avis, qui tient à l'accompagnement administratif des PME qui ne bénéficient pas toutes d'un service RH structuré pour préparer les opérations de recrutement. C'est pour ça que nous, à Pôle emploi, nous sommes particulièrement des partenaires des PME, avec des résultats d'ailleurs qui s'améliorent, puisque nos derniers indices de satisfaction au cours du premier trimestre 2019 fait que 76% des entreprises qui travaillent avec nous se déclarent satisfaites. Mmh. On a encore des marges de progrès, on en est convaincus, mais ça prouve que les actions que nous mettons en place commencent à produire vis-à-vis des PME des premiers résultats.
Et on entend bien, Jean Bassère, que vous misez tout sur la formation à Pôle emploi. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir
vous.
Fait le point dans RTL Midi. Un apprenti de 17 ans harcelé, maltraité par ses collègues, on en parle dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Un véritable calvaire, c'est ce qu'a subi un apprenti de 17 ans de la part de ses collègues de travail à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Durant un an, il a été leur souffre-douleur. Insultes, brimades, violences physiques, il a même reçu un coup de taser. L'affaire est tellement grave que 8 adultes âgés de 20 à 50 ans ont été arrêtés. 7 ont été mis en examen, Chloé Gandolfo.
Oui, et pendant un an et demi, le jeune a subi en silence les humiliations dans cette entreprise pour laquelle il travaille depuis qu'il a 15 ans. De la peinture marron dessinée sur les fesses, forcé de s'habiller en femme ou de rentrer dans une poubelle et de sourire à la caméra. Parce que oui, tous ces actes d'humiliation ont été photographiés et filmés par les collègues avec leur téléphone jusqu'au jour où c'est allé trop loin. Les 8 collègues jettent le jeune apprenti dans une sorte de fourgon avec des excréments d'animaux. L'apprenti se blesse au genou, il est obligé d'en parler à ses parents et porte plainte. Les enquêteurs identifient alors les 8 collègues, tous avouent mais parlent de simples jeux d'humour. L'apprenti, lui, se remet petit à petit et vient de trouver une nouvelle entreprise pour terminer son CAP. Les enquêteurs décrivent un jeune qui aurait pu se suicider si la situation avait perduré.
Chloé Gandolfo à Marseille pour RTL. Le Royaume-Uni a finalement jusqu'au 31 octobre pour réussir sa sortie. L'Europe a accordé 6 mois de plus à Theresa May. Les douaniers, eux, qui sont en première ligne, ont maintenu leur manifestation devant la Direction Générale des Douanes à Montreuil ce matin. Leur mouvement de grève continue, mais Christophe Abadi de la CFDT est tout de même soulagé de ce sursis de 6 mois.
Heureusement qu'il y a un report du Brexit pour l'administration, car on n'était vraiment pas prêt. Il manque beaucoup d'effectifs pour effectuer ces contrôles, beaucoup de formations, les formations n'ont pas été faites, et surtout des équipements techniques qui n'ont toujours pas été finis. C'est-à-dire que dans la plupart des aéroports qui accueillent des vols d'Angleterre, il va falloir installer des équipements qui s'appellent des bornes Pablo. Certaines n'ont pas encore été installées, et les gilets pare-balles sont pour la plupart périmés, nos équipements véhicules sont dans un état déplorable et les locaux, y compris les locaux à Paris, la gare du Nord, sont dans un état qui est inadmissible pour une fonction publique.
Christophe Abadi au micro RTL d'Éric Vanier. Au Soudan, l'indéboulonnable président Omar El-Béchir, qui était au pouvoir depuis 30 ans, aurait démissionné après plus de 3 mois de manifestations. D'après l'agence Reuters, des consultations sont en cours pour former un conseil de transition. Des milliers de personnes manifestent leur joie dans les rues de la capitale Khartoum. Le Qatar a de grandes ambitions européennes. Propriétaire du PSG depuis 2011, l'Émirat du Golfe s'intéresse notamment à l'AS Rome. Alors, ils ont beaucoup investi déjà sur Paris. Quel peut être leur intérêt, Nicolas Georgerot, d'avoir un deuxième grand club européen ?
Eh bien, tout simplement poursuivre leurs investissements, étendre leur influence dans le foot européen, comme les Qataris le font déjà dans d'autres branches de l'économie. Depuis que le Corriere dello Sport a mis ce sujet à la une mardi, beaucoup de spéculations. QSI est un fonds d'investissement souverain créé dans les années 2000. C'est cet organisme qui, au travers de plusieurs filiales, détient notamment le Paris Saint-Germain ou l'équipementier Burda, qui essaie de se faire une place parmi les du secteur. Détenir plusieurs clubs, c'est possible, mais ils sont toujours de hiérarchie et de niveaux différents. Bastien Dru, docteur en économie, spécialisé dans le football professionnel, a des doutes sur la réalisation de ce projet.
Ça serait complètement inédit d'avoir un propriétaire qui possède 2 clubs qui jouent le haut de tableau en Europe. Dans les exemples typiques de franchisation qu'on peut voir, notamment au niveau de Manchester City, il y a une holding qui s'appelle City Football Group qui détient plusieurs clubs dans le monde et qui permet à Manchester City de prêter des joueurs, de leur faire gagner de l'expérience. Et là, ça ne serait pas du tout le cas au niveau du Paris Saint-Germain avec l'AS Roma.
D'autant que l'UEFA interdit dans ses textes à 2 clubs d'un même propriétaire de participer à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa. Il faudrait pour cela que le Qatar instaure un autre fonds d'investissement. Une offre entre 350 et 400 millions d'euros est évoquée. Officiellement, l'AS Rome n'est pas à vendre, a fait savoir son propriétaire américain ces dernières heures.
Mais on ne sait jamais. Merci Nicolas. Pascal Praud, le Qatar qui prendrait l'AS Rome, ça vous inspire ?
En fait, j'ai interprété, je me suis demandé s'il ne voulait pas se désengager du Paris Saint-Germain. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ça. Mais c'est une interprétation toute personnelle, hein, d'ailleurs.
Il n'y a pas de signe encore aujourd'hui qui laisse penser que le Qatar partirait du Paris Saint-Germain pour aller dans un autre club.
Mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une interprétation tout à fait personnelle. Je me dis, tiens, ils veulent se partir du PSG. Ils sont peut-être trop contents des bons résultats, sans doute,
ça doit être ça.
En Ligue des Champions.
Tout en ironie, notre Pascal, aujourd'hui.
Pourquoi est-ce qu'on est si nul en anglais ?
What else ? Voilà. Pourquoi
vous étiez bonne, je suis sûr que vous étiez une bonne élève.
J'adore ça, l'anglais.
Alors ça, c'est une question qu'on pose depuis ce matin sur RTL. Vous allez pouvoir réagir. Appelez-nous si vous êtes grands-parents. Est-ce que vous aidez vos enfants, vos petits enfants, et les vacances scolaires vont commencer, est-ce que vous allez les garder, comment vous les occupez? Les chefs d'entreprise, est-ce que vous embauchez, est-ce que vous avez des difficultés pour recruter? Parce que paraît-il que ça, c'est étonnant dans un pays où il y a tant de chômage, mais c'est pas toujours facile de recruter. Vous pourrez également parler des aéroports de Paris, ADP, ce qu'il faut privatiser. C'est en train de monter peu à peu, de jour en jour. C'est une information, pas une information d'ailleurs, mais une polémique qui monte. Et puis, je voulais quand même vous dire que je reste sans voix. J'ai écouté Chloé Gondolfo qui a raconté le calvaire qu'a subi un apprenti de 17 ans de la part de ses collègues de travail à Alloche. Les insultes, les brimades, les violences physiques.
C'est épouvantable.
On reste toujours sans voix devant la nature humaine, parfois.
À tout à l'heure. Vous revenez dans une dizaine de minutes. Merci.
Avec
Pascal.
Plaisir.
RTL Midi.
La météo, Patricia Charbonnet, franchement, ça caille.
On avait encore des petites gelées blanches ce matin et cet après-midi. Les températures vont baisser sous la moitié sud, où là, le temps sera très instable. Donc, température qui baisse sous les averses, fréquentes averses entre le sud du Massif central et les Pyrénées, et des averses localement fortes, orageuses, parfois même accompagnées de grêles, sur l'extrême sud-est et notamment sur l'île de Beauté, alors que sur la moitié nord, cet après-midi, c'est une météo très ensoleillée, mais avec seulement 11 degrés à Cherbourg, 12 à Lille, 13 degrés à Brest, 15 à Paris et 19 de maximum à Marseille.
Bon, et demain ?
Fin de semaine, même chose. Température très fraîche en matinée. Encore quelques gelées, mais un ciel parfaitement dégagé. Toujours un petit peu d'instabilité du côté des Pyrénées. Et surtout sur l'extrême sud-est tout au long de la journée avec un ciel chaotique. Donc des averses encore à caractère orageux. Et puis c'est la tendance pour le week-end. Conditions météo anticycloniques avec le soleil qui va s'imposer assez facilement. Sauf sur un petit quart nord-est où on aura un temps instable avec des averses et même des giboulées de neige jusqu'à très très basse altitude. Encore de l'instabilité de la Côte d'Azur à la Corse. Et puis des températures très fraîches pour ce week-end frisquette, bien en dessous des normales de saison, avec la matinée de dimanche qui sera sans doute la matinée la plus froide du week-end et de la semaine. Si, si, avec des gelées parfois assez marquées entre le nord-est, le massif central et le centre-est. Et puis lundi, encore une belle journée avant une dégradation pour mardi.
Voilà, le grand bond en arrière vous était gracieusement offert par Patricia.
Mais je vous en prie.
Dans un instant, le rappel des titres avec Mélina Fache. Il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Mélina Fachin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Bras de fer ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont définitivement adopté la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises. Avec cette mesure qui fait polémique, la privatisation d'aéroports de Paris, 250 élus de l'opposition de tous bords veulent organiser un référendum d'initiative partagée. Parmi eux, le député La France Insoumise Alexis Corbière, qui a interpellé ce matin Bruno Le Maire avant que le ministre de l'économie ne lui réponde.
Vous n'avez pas été élu pour ça, ce n'était pas dans votre programme. Toutes les études d'opinion démontrent que les Français ne sont pas favorables à cette privatisation et vous voulez passer en force. Eh bien, vous tremblez. Oui, vous avez peur. Et ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille du peuple. Vous qui nous bassinez avec votre grand débat, ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs.
Ce n'est pas votre projet de référendum d'initiative partagée qui nous fait peur, monsieur Corbière. C'est vous. C'est vous quand vous vous mettez à hurler à la tribune. Quand on pense faible, on parle très fort. Einstein chuchotait et vous, vous hurlez. Oui, vous faites peur, monsieur Corbière. Quand vous nous expliquez que les 60 heures qui ont été passées pour examiner chacun des éléments de la privatisation d'aéroports de Paris ne comptent pas, que dans le fond, l'Assemblée nationale et les représentants du peuple ne comptent pas.
Alexis Corbière et Bruno Le Maire à l'Assemblée au micro de Vincent Derosier. 130 défilés de retraités sont prévus aujourd'hui un peu partout en France. Pour la deuxième fois depuis le début de l'année, les seniors réclament une réindexation de leur pension sur l'inflation et l'annulation de la hausse de la CSG pour tous, comme l'explique Didier Hotte de l'Union confédérale des retraités Force ouvrière.
Ce qu'on nous propose, c'est de faire en quelque sorte une appréciation à la tête du client. Les petites retraites auraient droit à une revalorisation en fonction de l'inflation et pas les autres. Ça ne peut pas se faire comme ça. Les gens qui cotisent beaucoup n'ont pas cotisé que pour eux-mêmes, ils ont cotisé aussi pour la solidarité, ils ont cotisé pour les chômeurs, ils ont cotisé pour les invalides. Et on leur dirait, mais vous n'aurez pas droit à la même indexation que les autres. C'est complètement inégalitaire dans le traitement des citoyens. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un système, c'est un droit, et il faut appliquer les mêmes droits à tout le monde, sinon on n'est plus en République.
Didier Hotte au micro RTL d'Éric Vanier. Allons. Julian Assange a été arrêté ce matin par la police britannique. Le fondateur de Wikileaks avait trouvé refuge dans l'ambassade d'Équateur depuis 7 ans. Mais le président équatorien lui a retiré son asile diplomatique. Coup de tonnerre sur la scène internationale. La Russie accuse Londres d'étrangler la liberté. En Suède, la femme qui accusait Julian Assange de l'avoir violée demande la réouverture de l'enquête. Le lanceur d'alerte risque une extradition vers les États-Unis où il serait jugé pour avoir publié de nombreux documents confidentiels. Au Soudan, il était au pouvoir depuis 30 ans. Le président Omar el-Béchir a annoncé sa démission. Scène de liesse dans les rues de la capitale, Khartoum. Le peuple réclamait son départ depuis 3 mois. Le Royaume-Uni qui a finalement jusqu'au 31 octobre pour réussir sa sortie. L'Europe a accordé 6 mois de plus à Theresa May contre l'avis d'Emmanuel Macron qui souhaitait un Brexit beaucoup plus rapide. Et les médias britanniques ce matin, Marie Billon, considèrent que sur ce coup-là, le président français a perdu de sa superbe.
Et oui, les Britanniques s'attendaient, redoutaient même un moment à la De Gaulle. Le général qui avait dit 2 fois non à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun dans les années 60 et Emmanuel Macron menaçait d'une fermeté similaire. Mais il a manqué son rendez-vous avec l'histoire, selon une partie de la presse britannique. Au lieu de défendre ses idéaux européens, le président pensait comme un politicien, lit-on, obnubilé par la situation en France et par l'échéance épineuse des européennes. Le Daily Telegraph, par exemple, décrit un président français isolé qui tape tellement du pied par terre qu'il arrive à se creuser un trou. Les Européens auraient alors passé une grande partie de la soirée à chercher une échelle pour l'en sortir. Ce délai de 6 mois est un hochet pour Emmanuel Macron, destiné à l'apaiser, estime le Daily Mail. Et pour une fois, Theresa May n'était pas la plus casse-pied dans la salle, s'amuse aussi le Guardian. Le Daily Express lui en rajoute, Macron est au bord du gouffre, titre le tabloïd, son autorité au sein de l'Europe ne tient plus que par un fil. Et pour se rattraper aux branches, dit encore l'Evening Standard, le président français fait croire que le 31 octobre, c'est son idée, son triomphe. Bref, la rivalité franco-britannique a encore de beaux jours devant elle.
Marie Billon à Londres pour RTL. Un mot de football avec la victoire hier du FC Barcelone, 1-0 face à Manchester United en quart aller de la Ligue des Champions. L'Ajax Amsterdam et la Juventus Turin ont fait match nul un partout. Et puis ce soir, top départ des quarts de finale aller de la Ligue Europe avec 4 matchs à 21h. Direction maintenant la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Mélina.
L'horizon s'éclaircit pour la Bourse.
Et oui, le CAC 40 se rapproche des 5500 points. Il gagne à l'instant 0,84%, 5495 points, un plus haut de l'année. Les investisseurs apprécient les politiques ultra accommodantes des banques centrales. Comme prévu, la Banque Centrale Européenne a laissé les taux d'intérêt inchangés. Ils devraient rester à ce niveau au moins jusqu'à la fin de l'année. Même son de cloche du côté de la Réserve fédérale américaine. Et selon le dernier compte-rendu de son comité, on comprend que les autorités monétaires ne prendront pas le risque de ralentir encore la croissance avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Enfin, les boursiers qui ne croyaient vraiment pas à l'hypothèse d'un Brexit dur considèrent la date de sortie comme un non-événement. Du côté des valeurs, LVMH joue les vedettes. Aujourd'hui, l'action gagne près de 5% et pulvérise ainsi un nouveau record historique. Le groupe a maintenu le cap d'une très solide croissance à 2 chiffres au premier trimestre. Et la bourse salue aussi le chiffre d'affaires de Sodexo, car le titre prend 6%.
Merci Sylvie, Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Il est 13h06 sur RTL. Dans un instant, vous avez la parole avec Pascal Praud. Appelez-nous au 3210.